Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme.
Il faut pas frapper, Rotten. Ne frappe pas. Il frappe quand même. Et Bilou. Oui, t'as dit Jérôme Rotten.
Lui, je lui ai fait sa carrière. Hein.
Ouais. Oh, lui aussi, il a fait la tienne.
Non.
Avec ce but. Ouais, bah, on le diffuse. Ouais. Hey, tu personne, pourrais lui payer des droits.
Quand je suis arrivé à Bastia, personne ne le connaissait. Maintenant, il se fait offrir des. Qui ?
Didier Grassi.
Bah oui.
Oui, bien sûr. On lance la 29e journée de Ligue 1 avec nos correspondants. Sont présents Edouard G à Lyon. Salut Edouard.
Salut Benoît, salut Jean-Michel.
Salut Edouard.
Oh, t'as pas fait ta carrière avec mes buts. Hein.
Non. Quoi ? Ah bah non, toi, tu étais triste comme tout quand je marquais à Gérald. Je comprends pas.
C'est sûr.
Je comprends pas.
Julien Landry.
Normalement tu dois être objectif, journaliste.
Tiens, un comeback. Julien Landry qui est là.
Cherchez bien
Landry.
Bonsoir,
messieurs. Salut Julien.
Comment il va ?
Comment il va ?
Bien, Julien.
Bon. Ouais. Ah, il est venu prendre le soleil à Paris, Julien.
Eh ouais. Dernièrement. Ouais, exactement. Il était là en début de semaine. On embrasse Jean Baumel qui devait être avec nous, qui est dans le train. Il y a eu du retard. Il est de retour de Birmingham parce qu'on le rappelle, il était en Ligue Europa Conférence en quart de finale. Ah ouais,
il a mangé trop de hamburgers. On m'a dit qu'il a tué les hamburgers là-bas à Birmingham.
Je vous donne juste nos débats. À 19h15, est-ce que Lacazette est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement? À 19h30, le LOSC, est-ce la plus grande chance française en Coupe d'Europe désormais? Puis à 19h35, Clermont-Montpellier, le match aller a-t-il vraiment plombé la saison des Montpelliérains? Mais on lance, messieurs, cette 29e journée avec nos correspondants. Donc elle est amputée de 3 matchs, on le rappelle, Lorient-PSG, Monaco-Lille, Marseille-Nice. 3 rencontres reportées pour soulager nos clubs français entre l'aller et le retour de leur quart de finale respectif de Coupe d'Europe. 3 matchs qui se joueront le mercredi 24 avril. C'est une spécificité française. Les adversaires de nos clubs de Ligue 1 seront sur le pont ce week-end, que ce soit Benfica, que ce soit le Barça ou également Aston Villa. On rappelle que cette décision a été prise par le conseil d'administration de la Ligue, car je cite, le parcours des clubs français en Coupe d'Europe est une priorité absolue. Problème, la Ligue 1 est extrêmement serrée, que ce soit pour la course aux places européennes ou dans la lutte pour le maintien. Alors, le report des matchs fausse-t-il le championnat? Avant d'entendre Jean-Michel et Jérôme sur le sujet, quel est le sentiment global sur cette question à Lyon, Edouard?
Eh bien, Pierre Sage a juste fait une phrase avec un « oui, on comprend qu'on protège les Européens », mais il y a eu un long « mais » derrière. Je cite, ça biaise un peu le championnat parce que j'imagine que les adversaires, et ils pensent notamment à Lorient qui est barragiste, qui aujourd'hui est le premier relégable, donc qui ne joue pas ce week-end, eh bien Lorient va devoir jouer un match en semaine et en rejouer un le week-end. Ça leur crée pas les meilleures conditions pour se maintenir en termes de fatigue, dit le coach de l'OL. Alors, il dit que lui n'est pas vindicatif parce qu'il n'est pas dans cette situation-là de barragiste, mais peut-être que s'il avait été dans cette position, il aurait peut-être eu un discours un peu plus franc, on va dire, plus direct et moins « oui, mais ».
Qu'est-ce qu'on en pense à Montpellier, Julien Landry, alors ?
Alors, il y a deux cas précis pour Michel Derzakarian. Il y avait déjà l'affaire du fait que Paris ait fait tourner contre Clermont et où Clermont ait pris un point, ce qui n'a pas forcément plu à Michel Derzakarian parce que Clermont reste malgré tout un adversaire direct pour les Montpelliérains. Et puis, il y a donc ce cas du report des matchs ce week-end, tu en as parlé. Une situation que ne comprend pas du tout le coach du MHSC.
Ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi, c'est... En Angleterre, ils jouent, les mecs. Hein. Dans tous les autres pays, hein, ils rejouent tous les 3 jours, les mecs. Je pense pas que ça fausse le championnat, parce que quoi qu'il arrive, en 15 jours, ils vont rejouer en semaine. Hein.
Tiens, puis un homme qui est directement concerné par la lutte pour le maintien, c'est Antoine Comboiré. Un Nantes est 15e et premier non relégable. Écoutez la position d'Antoine Comboiré sur le report de ces matchs.
Non mais je comprends, hein. Je comprends qu'aujourd'hui les clubs qui jouent le maintien sont pas contents du tout. Mais après c'est très compliqué parce que donc la Ligue aujourd'hui veut protéger donc les clubs qui font les Coupes d'Europe. Et puis mais en même temps il faut pas affaiblir donc ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Mais moi je trouve qu'il faut que la Ligue surtout défende son championnat. Et la Ligue faut qu'il fasse attention. Parce qu'en jouant à ce jeu-là, comment on fait en fin de saison? La Coupe d'Europe, ça vient après. Hein. Même si nous, on veut tous que vous, moi, vous imaginez, moi, je suis supporter du PSG, donc j'aimerais voir le PSG gagner la Ligue des Champions. J'aimerais voir Marseille gagner la Ligue Europa, bien sûr. Moi, je défends mes clubs français hein, sur la Coupe d'Europe, sur la scène européenne, mais d'abord la Ligue. Hein.
Alors, est-ce que le report de ces matchs fausse le championnat, Jérôme Bretagne?
Bah, moi, on n'est pas habitué à ça. Donc, automatiquement, j'ai été surpris. Je suis à peu près sur la même lignée que Antoine, Camboiré. On est tous à fond, les clubs français, en Coupe d'Europe, bien sûr, qu'on a envie que des clubs aillent loin, nous fassent vibrer, nous fassent ces émissions, l'adrénaline à son max, même nous, parce qu'on reste passionnés et supporter numéro un du football français. Mais après, il y a un championnat, ça a toujours existé. On est aussi passé par là. Moi, je suis désolé, mais nous, il n'y avait pas d'arrangement quand j'étais à Monaco et qu'on a été en finale de la Ligue des Champions. Alors pourquoi aujourd'hui, tu as des arrangements? Parce que les matchs sont plus longs, parce que les matchs sont plus intenses.
Parce que tu veux te donner un maximum
plus
de matchs.
Non, il n'y a pas plus de matchs, rassurez-vous. Il y en avait même plus à l'époque parce qu'il y avait la Coupe de la Ligue. Donc, il y avait 20 clubs au lieu de 18. Donc je suis désolé.
Il y avait des prolongations quand j'étais à la Coupe de France.
En plus, donc quand t'as réduit déjà à 18, comment tu peux comprendre quand t'es un club qui joue le maintien? En effet, ça peut te perturber. De pas jouer pendant 15 jours, c'est perturbant pour des clubs qui sont habitués à jouer toutes
les
semaines.
Surtout si tu vois des concurrents directs prendre des points.
Non mais oui, parce que là où t'as raison, c'est que même sans prendre de points, je veux dire, on est tous passés par des matchs remis. Alors c'est pas des journées entières, mais des matchs remis pour cause de mauvais temps ou stade fermé pour autre chose ou quoi que ce soit et le match est reporté 15 jours, 3 semaines après. Mais en fait, c'est une catastrophe dans le calendrier parce que même toi quand t'es joueur, tu te dis il y a 3 points. Ah ouais, si on reprend 3 points au classement, on va repasser devant. Ah puis en gros, déjà les 3 points qu'il y a en jeu, tu les as plus ou moins comptés. Psychologiquement, c'est important. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre.
Si, bien sûr.
Mais je suis désolé, quand tu joues le maintien et que tous les matchs sont importants, je peux comprendre que ça perturbe. Donc, je suis désolé. Et puis, encore une fois, et là, c'est Michel Derzakarian qui dit ça. Il a raison. Les autres pays, ils jouent. Alors, pourquoi nous, on a décidé de pas jouer? Puis, en plus, ça nous a bien rendu service parce qu'à l'arrivée, on a fait 3 défaites.
Oui, enfin, c'est là que ça compte. Ouais, c'est là qu'ils ne jouent pas.
Ah bon? Et pourquoi? Ça aurait été problématique. Encore une fois,
tu sais, les cas sont différents. Cette réflexion-là, on l'a eu.
J'ai entendu les dirigeants parisiens qui m'ont appelé hier. Je l'ai dit déjà en me disant mais regarde, nous on a un autre avantage. C'est pour ça qu'on est optimiste. C'est que nous on joue pas ce week-end, alors que Barcelone y joue. Mais je dis, vous nous prenez pour des cons, en fait. Vous croyez que Barcelone va faire le match de sa vie à Cadix, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu le titre? Tu crois
par
qu'ils vont.
Contre, Cadix va faire le match de sa vie.
Voilà. Et par contre, et pour renverser le truc, parce que c'est très facile de nous dire, nous, on a une semaine pour se préparer, c'est génial. Mais tu crois que quand t'es un compétiteur, que t'as fait un match merdique, et que t'as déçu mercredi soir, tu crois que t'as pas envie de rejouer assez vite pour effacer cette contre-perf?
Bon.
Plutôt que d'attendre une semaine? Ben, je peux te dire que oui. Moi, les joueurs, ils auraient préféré jouer ce week-end. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une anomalie et que je ne comprends pas ce report de ces 3 matchs.
Jean-Mi, est-ce que le championnat est faussé?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un paradoxe qui va bien à la Ligue de football professionnel. Je crois que les 2 dernières journées se jouent le même jour à la même heure, pour des raisons d'équité. D'accord?
Oui.
Bon. Et pourquoi les autres journées se joueraient pas à quelques différences près, mais dans la même période, dans le même week-end? Et là, effectivement, il y a des clubs qui vont être lésés parce que c'est il y a des reports qui ne s'imposent pas. Et puis quand on joue la Coupe d'Europe, que je sache, quand on joue la Coupe d'Europe, on sait qu'éventuellement, en fin de parcours, si on a la chance d'être en quart de finale de Coupe d'Europe, on sait qu'on va jouer tous les 3 jours. C'est la règle.
Ben oui.
C'est la règle. Donc, je ne comprends absolument pas cette décision. C'est, je ne sais pas si c'est électoraliste, si c'est du clientélisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est encore une spécificité française qui, poussée à l'absurde, permettrait à des équipes de jouer leur match, de finir le championnat au mois de juillet. Pourquoi on considère que c'est plus important en quart de finale que dans les poules, j'en sais rien. Mais quand il y a une règle que l'on connaît, que tout le monde connaît,
oui,
au début du championnat, on s'en tient à la règle, point final.
Oui. Et encore une fois, Jean-Michel, pour aller dans ton sens, et ce qu'on dit, et que je peux comprendre le mécontentement des entraîneurs, je suis désolé, pour un événement, quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire une finale de Coupe d'Europe, qui est des arrangements. Mmh. Nous, ça avait été le cas à Monaco. Vous savez que les deux dernières journées, elles se jouent le même jour.
Multiplex, ouais.
Bah, nous, pour gagner une journée de repos, on avait joué le vendredi soir au lieu de jouer le samedi soir. Mais, c'était à Bordeaux. Mais tu pouvais le comprendre, ce que je veux dire.
Oui.
C'était pas aller contre l'intérêt du championnat ou contre les trucs.
Là où je vous suis pas, c'est que ça fait des années qu'on se plaint, qu'on dit que les clubs français considèrent pas assez la Coupe d'Europe. Mais cette année, on en a trois en quart de finale. On a raison de maximiser les chances.
Ils sont tellement nuls qu'il y a quelques années, me semble-t-il, il y avait des journées de championnat qui étaient prévues au moment où il y avait des matchs de Coupe d'Europe.
Exactement.
C'est arrivé, ouais.
Ou des finales de Coupe de France qui se jouaient les finales de le même jour que les finales de Coupe d'Europe.
Arrête d'essayer de défendre.
C'était pas l'optimisme, ça.
Non. Comment ?
Non, parce que Jérôme dit il y avait des finales de Coupe de France le même jour que des finales de Coupe d'Europe.
Ouais, ou le même week-end, tu vois. Non, mais c'est sûr.
Mais là, rien ne justifie ces reports. Et c'est vrai qu'il y a des matchs importants. Il y a un Lorient, Paris Saint-Germain, c'est important pour Lorient et pour les adversaires directs de Lorient. Il y a un Monaco-Lille qui est important et pour l'un et pour l'autre et pour les adversaires. Déjà Monaco-Lille sont intéressés tous les deux par la Ligue des Champions et il y en a d'autres qui sont intéressés par ce match-là. Il y a trop.
Oui, et puis encore une fois, Jean-Michel, si tu veux faire passer ce règlement-là, allez, et ben fais voter les acteurs.
C'est le cas, Jérôme. Non. Le conseil d'administration de la Ligue, ce sont les présidents de Ligue 1 qui votent à l'unanimité.
Mais ça n'a pas été à l'unanimité, ça.
Bah si, c'est ça.
Bah, la preuve, ils sont tous en train de gueuler, les entraîneurs et tout ça.
Il y a un vote et la majorité l'emporte. C'est-à-dire que tu fais voter les présidents et ce sont eux qui choisissent de
remporter. Alors moi, j'aimerais bien voir le vote et qui y avait, s'il y avait eu tout le monde.
Benoît, je t'arrête. On fait voter quelque chose qui ne doit jamais être mis au vote.
Voilà.
Parce que le calendrier, il est fixé, les règles du jeu pour la Coupe d'Europe sont fixées, et tu changes les règles du jeu en cours de compétition.
Après, bientôt, je vous annonce, la Coupe de France, ça va être 2x30 minutes. Deux fois 30 minutes parce que il y a plus de prolongation, il y a plus deux fois 30, on a déjà viré la Coupe de la Ligue. Donc qu'est-ce qu'on pourrait virer en faire un temps de 14. Comme au rugby. Allez, hop, on revient 4 équipes. Normalement, bon. Là, ça devrait aller avec 26 matchs, non ?
Dans un instant, on poursuit le débat, lunch multiplex. Édouard G est là, Julien André aussi. On va parler de Lyon, justement. C'est le match sexy du week-end. Ce Lyon-Brest, dimanche soir à 20h45.
C'est l'affiche.
Quelle affiche !
Deux énormes clubs l'un face à l'autre.
Là, pour une fois, je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, c'est l'affiche.
Bien sûr que c'est l'affiche. Édouard, ça fait plaisir de savoir que tu as l'affiche de Ligue 1 dimanche soir. Et cette question qu'on va se poser, est-ce qu'Alexandre Lacazette, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement? À tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h19 sur RMC, on est là toujours dans notre multiplex Ligue 1. Oui, on lance cette 29e journée de championnat de Ligue 1. On s'éclate avec nos correspondants. Ah, pas beaucoup, il en manque un pour l'instant. Ouais.
Jimbo, il est dans le train. Il rentre de Birmingham.
Écoute, Birmingham, la ville de Christophe Dugarry.
Ah oui, là où il a brillé.
J'aimerais bien lui poser la question s'il a vu la street.
Dugarry Street.
On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet aussi, bien sûr. Julien Landry,
Édouard G. Et justement, on parle de Lyon, l'affiche la plus sexy du week-end. Lyon-Brest, dimanche soir, 20h45, le 10e face au 2e. Deux équipes qui ont pris 10 points sur les 5 dernières journées. Lyon qui s'appuie sur Alexandre Lacazette, le général, 3e meilleur buteur de Ligue 1.
Général.
14 buts derrière Mbappé et Jonathan David. Alors, Édouard, cette semaine.
Ne déçois pas, Édouard, parce que j'ai fait une Luis Enrique aujourd'hui. J'ai pris Julien et toi. Donc, personne s'y attendait.
Édouard, il a bossé.
Donc,
il a
allez-y.
Pif, il s'est dit, je vais aller à la rencontre de joueurs qui ont connu la Cazette.
Sinon, je vous sors à la mi-temps.
Dès le départ, tu es parti, Édouard, à la rencontre d'Enzo Real, partenaire de formation de la Cazette pendant 10 ans. Et comme tout le monde, d'ailleurs, il est bluffé par les performances actuelles de son pote.
Oui, et quand on lui parle, Enzo Real, tout de suite, il revient à un mot de confiance. Confiance donnée par le staff de Pierre Sage qui lui permet d'empiler les buts actuellement. Hein, sur les 12 dernières titularisations, c'est 11 réalisations pour Alexandre Lacazette. Et du coup, quand on parle de confiance, on va faire ressurgir Jérôme Hanon, celui de Fabio Grosso, l'éphémère coach de l'automne. On se souvient de la mise sur le banc à Rennes d'Alexandre Lacazette, assorti à la mi-temps une semaine plus tard face à Lille. En gros, Pierre Sage fait ben, tout ce que le technicien italien n'a pas fait Enzo Real.
Il faut lui donner toute sa confiance. Il faut pas laisser le moindre doute, parce que si tu lui montres que t'as pas confiance en lui, eh ben tu peux rien tirer de lui, parce que malgré tout il a son petit caractère de cochon. Vaut mieux s'appuyer sur lui et lui montrer qu'on a confiance en lui. Et là par contre, eh ben tu peux aller à la guerre avec lui.
Voilà, aller à la guerre, et donc il surprend tout le monde, tous ses proches, donc Enzo Real, les deux se découvrent dès l'âge de 9 ans, quand l'un arrive du 8e arrondissement, l'autre de Vénissieux, donc quand il rentre au centre de formation. Alors pour dessiner les progrès de Lacazette, Enzo Real a cette formule: désormais, d'une miette, il te fait un festin. Mais qu'est-ce que cela veut dire?
Par exemple, un cafouillage dans la surface, eh ben, il est capable de le transformer en but, il est capable de marquer en taclant aussi. Et avant, ben, c'était plus des courses en profondeur, c'était plus des buts en dehors de la surface. Et aujourd'hui, c'est devenu, en plus d'être ça, un joueur de surface et un renard. Il n'avait pas forcément ça quand il était plus jeune, quoi.
Et désormais, la question... L'équipe de France dans tout cela, dont le lien est plus que contrarié, hein, 16 sélections, dont la dernière en Allemagne le 14 novembre 2017, qui se solde par son meilleur match et un doublé de partout au final. Et puis donc depuis, plus rien. Enzo Real, à ce propos, le joueur de Gol FC, eh bien il est cash.
Ouais, pour moi, il a sa place largement. Dans le profil qu'il est, en tant que joueur dos au jeu, en tant qu'appui, oui, il a sa place. Il irait très bien avec les profils de profondeur et lui en point d'appui. Je pense qu'il aurait... au moins sa chance de pouvoir participer et de montrer qu'il a sa place. Avec Mbappé, ben, il peut combiner, il peut tout faire. Il peut permuter avec les Dembélé, les Mbappé, ouais, sans aucun souci. Ouais.
Voilà, Enzo Real, donc, lui qui plaide directement pour une place en équipe de France, et il est cash.
Question simple, Jean-Michel, Jérôme, est-ce que Lacazette, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement?
Je sais pas si c'est le meilleur joueur de Ligue 1.
Il n'en est pas loin.
Non, mais... très clairement, cette question-là, elle est compliquée quant à Kylian Mbappé dans notre championnat.
Bah, c'est pour ça qu'on dit actuellement. Parce qu'actuellement, Kylian Mbappé est un peu en difficulté.
Ça veut dire quoi actuellement?
Ça veut dire depuis un mois.
Pour moi, il y a deux semaines de ça, il te mettait un triplé à Montpellier, Kylian Mbappé.
Tout le monde gagne contre Montpellier, je crois.
Il a battu Rennes à lui tout seul.
Non, mais
ce que je veux dire, c'est que pour parler de Lacazette, je veux pas minimiser ses performances. Au contraire, je suis le premier à militer pour qu'il revienne.
Mais oui, tu en as parlé la semaine dernière.
Même si Monsieur Larquet, qui était très proche de Didier Deschamps depuis qu'il l'a critiqué un peu moins, nous a dit tu sais que c'est pas possible. Là, ouais, d'accord. N'empêche que les performances d'Alexandre Lacazette,
c'est très mauvais.
Oui, c'est vrai, c'est pas grave. Alexandre Lacazette,
je me suis même pas reconnu. Tu vois,
Bah non, je l'ai pas fait avec l'accent parce que. N'empêche que ce mec-là, depuis qu'il est revenu à Lyon, on peut dire son âge, tout ce que tu veux, on peut dire qu'il n'a pas les meilleurs joueurs autour de lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le compteur, il tourne tout le temps, il est décisif, il s'accroche.
C'est beau, c'est d'avoir porté son club même.
Moi, je trouve qu'il est hyper, hyper efficace, contrairement à une époque où il avait peut-être besoin d'un peu plus d'occasion, mais là, il est impressionnant de ce côté-là, sa régularité. Donc moi je dis bravo parce que franchement quand tu reviens à Lyon par la petite porte, hein, parce que quand il est parti de Lyon, je suis pas sûr que dans sa tête après Arsenal c'était de revenir à Lyon. Il est revenu à Lyon, il a l'humilité de se remettre au boulot, de vivre des années galères et surtout cette année trois entraîneurs, ouais. Et de garder toujours en tête la performance alors qu'il a subi des choses avec Grosso. Et vous le savez, c'est sorti dernièrement encore, que c'est compliqué quand t'es un joueur d'expérience comme lui, et de talent. Donc bravo pour ce qu'il fait. Je pense très honnêtement qu'il mériterait de nouveau de retrouver la sélection.
Jean-Michel, est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 en ce moment?
Alors, je sais pas, parce que c'est subjectif le meilleur, c'est compliqué.
Qui est meilleur? T'es meilleur? Pas t'es meilleur?
Ça, c'est Unai Emery, j'ai reconnu.
Et... Je sais pas. C'est mauvais comme imitation.
C'est quoi, ça m'avait manqué.
Ah, tu t'en remets pas, Captain.
Ah, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ah, ça m'avait manqué.
Ah, c'était.
Arrêtez sa meilleure imitation. Arrêtez.
Franchement, elle était bonne, celle-là.
Ouais, celle-là était bonne. Celle-là était bonne.
Oh, bah, Julien, t'es pas prêt de revenir.
Ah, ouais, ouais.
Ah, ben, c'est pas grave. Je vais rien rater.
Ouais.
Non, mais c'est Alilozy, tu fais pas mal.
Ah oui, ça c'est vrai.
Mais je le ferai pas ce soir.
Ah, tout va, ouais, ben, tu me feras un petit kiff tout à l'heure.
Ça aurait un peu remonté la note, mais pas terrible.
Non, je, loin, hein.
Je sais pas si c'est le meilleur. En tout cas, ces dernières semaines, c'est le joueur le plus décisif, hein, du championnat. Ça, c'est clair, c'est net. Et pour en revenir, pour revenir plus exactement sur une éventuelle sélection, un éventuel rappel en équipe de France, j'ai pas dit qu'il ne le méritait pas, Jérôme.
Non,
j'ai
mais je sais.
J'ai dit que ça ne se ferait jamais.
Jamais.
Ah ouais. Voilà, ouais. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, il y a un Noël avec la Cazette, un Noël sans la Cazette, et il est évident que ce garçon-là, ces dernières semaines, a mis les buts qu'il fallait au moment où il fallait. Il a retrouvé. Je ne savais pas que c'était. Voilà, tu vois, le sonore de Doudou nous a éclairé, parce que je ne savais pas que c'était un garçon qui était sensible comme ça et qui avait besoin d'autant de
confiance,
de confiance en lui pour s'exprimer. Comme quoi, on découvre les hommes à travers les autres, d'ailleurs, et les jugements des autres. Mais la Cazette aujourd'hui, c'est évidemment, il serait titulaire. Si le Paris Saint-Germain avait la Cazette comme avant-centre, ah, peut-être qu'il ne jouerait pas avant-centre finalement.
Ouais, méfie-toi.
Il joue là, pas avec un avant-centre. Ouais, donc,
là, je me méfie. Bon, moi, bon, là, ouais, j'allais dire une bêtise. Voilà.
Ouais.
Bon, eh ben en tout cas, voilà pour une Alexandre Lacazette. C'est l'affiche du week-end, cette 29e journée, ce soir à 20h40.
Très régalé.
Lyon-Brest.
Non, dimanche soir. Parce
dimanche soir.
Dimanche soir.
Dimanche soir. Et ce soir, c'est Metz-Lens. Ce soir, c'est Metz-Lens. Pardon, excusez-moi.
Bon,
19h27, on poursuit le multiplex dans un instant. On remercie Edouard qui doit nous quitter. On va rester avec Julien Landry qui va rester avec nous.
Merci Edouard.
Jusqu'à 19h40.
Allez,
on parle de
Saint-Etienne. Ah non, il part pas Saint-Etienne.
Ah non. Saint-Etienne, il y a le derby. Attention, il y a le derby. Derby mais féminin, version féminin.
Là, Edouard va se rapprocher de Saint-Etienne parce qu'ils vont peut-être monter.
C'est vrai, on leur souhaite. Voilà. Mais oui, les Verts sont de retour bientôt.
Ah, c'est incroyable. Ce serait beau.
Allez, merci Edouard. Bonne soirée.
Allez,
ciao, ciao. Et on reste avec Julien dans un instant.
On embrasse Bernard Caillazot,
qui a été bon en Coupe d'Europe hier, et de Montpellier. Reste avec
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. Dernière demi-heure de Roten sans flamme de la semaine. Et oui, mais vous inquiétez pas. Après là, le week-end, on sera de retour à partir de lundi. Une grande semaine encore qui s'annonce. Et oui, encore de nouveau une semaine Ligue des Champions, une semaine Coupe d'Europe. Oui, ça va être génial. Ça va être génial, mais la dernière demeure va être intense aussi. On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet. Dans 15 minutes, le quiz de Julien Cazard en route pour un grand chelem. Et on est toujours, bien sûr, avec Julien Landry.
Avec des directs. Julien Landry est là, c'est le dernier des Mohicans. On a des directs, à commencer par le tennis et le dernier quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Hugo Humbert qui affronte Casper Ruud et Eric Salio.
Ça va mieux depuis 5-6 minutes pour Hugo Humbert, qui était vraiment en grosse difficulté. Mené 6-3, break d'entrée de deuxième manche, et là à l'instant il vient de débreaker et il a 3 balles pour faire 3-2 sur le service de Casper Ruud, qui commence à faire quelques fautes. Alléluia, parce que jusqu'alors il était intouchable, le Norvégien. Donc ouais. 6-3 Ruud et 2 partout dans le deuxième.
Autre direct, ça fait rêver tous les fans de foot, une finale de Coupe d'Europe 100% française. C'est du basket, c'est de l'Eurocup, et cette finale oppose Bourg-en-Bresse au Paris Basket. C'est le match 2. Salut Arnaud Valadon.
Salut les amis, Arnaud. Bienvenue à Equinox. 3500 personnes, ambiance de folie. Mardi, Paris avait remporté le premier match face à Bourg-en-Bresse dans la capitale. Et ce soir, si les Parisiens s'imposent, ils remporteront l'Eurocup. C'est l'équivalent de l'Europa League. Et comme en foot, il y a un ticket pour la plus prestigieuse compétition européenne, c'est-à-dire l'Euroleague en basket, à aller chercher. Mais si Bourg gagne, il y aura une belle à jouer à Paris lundi. C'est parti depuis 1 minute 30. Vous entendez l'ambiance incroyable derrière. Paris qui mène d'un petit point 3-2.
Merci Arnaud. Allez, merci. Justement, parlons de Coupe d'Europe.
Stephen Time.
Dans un instant. Stephen Time demain, 19h-20h30. Oui, c'est l'émission de référence ce samedi soir.
Oui, de basket.
Ah ben là, c'est quelque chose.
Émission de référence de basket.
Omnisport.
Omnisport.
Ah ouais, tous les sports.
Non, quand même pas.
Dans un instant, on va parler de Montpellier.
Stephen, quand même.
Ah si, il parle très bien de football d'ailleurs. Méfie-toi.
Ouais, bah, j'ai parlé une fois avec lui, c'est pour ça que je me dis ça.
On parle de Montpellier dans 5 minutes. Je voulais juste laver de Captain Larquet. Jérôme nous a donné le sien en première heure, mais on voulait revenir sur le match de Lille hier. C'était un moment d'histoire pour les Lillois, premier quart de finale de Coupe d'Europe. La Conférence League, c'était sur la pelouse d'Aston Villa, une défaite 2-1. Ça laisse de l'espoir en vue du match retour. Jean-Michel, qu'est-ce que tu as pensé de la performance lilloise et surtout, est-ce que désormais tu te dis que c'est Lille la meilleure chance française en Coupe d'Europe sur cette fin de saison?
Ben oui, j'ai devancé ta question. Oui, bien évidemment. Parce qu'ils ont fait, d'abord hier, ils font un match cohérent. Ouais. Voilà. Déjà, ça ressemble à un vrai match de Coupe d'Europe, avec une équipe qui, contrairement à d'autres, et je ne citerai personne, on sent quand même qu'il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et là, je rejoins un peu Jérôme aussi. C'est pas facile d'aller faire un quart de finale chez dans un club anglais. Tu te fais bouger.
Cinquième de première ligue. Ouais.
Et ils sont en route pour. Ils font. Il y a longtemps qu'ils ont pas fait un championnat de cette valeur. Moi, je les ai trouvés très cohérents. Et eux, effectivement, je dis pas que ce sera simple. Hein. Pour se taper les Villains, mais je pense que ils ont une réelle chance. Voilà, c'est hier j'ai trouvé ce match très cohérent. Je peux pas en dire davantage parce que c'est des matchs qui sont difficiles, qui sont âpres. Et les Lillois, ils ont franchi un pas quand même. Hein. On sent, c'est une équipe qui aujourd'hui a énormément de maturité. D'ailleurs, leur parcours en championnat depuis 2 mois est, je pense, l'un des plus remarquables.
Ah
je
oui, sais pas c'est si... l'une des équipes les plus en forme, ouais. Ça c'est sûr.
Et il prend des décisions. Par exemple, quand on voit que Cabella est sur le banc au départ de la rencontre, on se dit que finalement...
Oui, il y a de la profondeur dans l'effectif, t'as raison.
Et c'est un joueur qui serait titulaire pratiquement partout. Mmh. Aujourd'hui, j'ai cette équipe de Lille est en gros progrès. Maintenant, Jérôme, est-ce que si Lille se qualifie pour la grande, là on parle plus de la Ligue Europa, pour la grande Ligue des Champions l'année prochaine, l'équipe sera meilleure ou sera amoindrie, ça...
Bah, et ça, Olivier Létang qui est venu la semaine dernière dans l'émission...
Il ne va pas te dire le contraire.
Après il a le droit de dire aussi des choses vraies et j'espère qu'il ne nous a pas menti. Maintenant, oui, on peut être sceptique parce qu'il y a des joueurs qui vont être convoités, qui sont très courtisés et que ça te fait une grande partie du budget aussi si tu les vends très bien. Et aujourd'hui, on connaît le montant de certains joueurs. C'est difficile pour un club français de dire non. Et puis même pour le jeune joueur qui est Yoro ou Zegrova, par exemple, parce que ces joueurs-là vont être courtisés forcément. Mais pour revenir sur le match d'hier, moi, où je suis assez d'accord avec toi, Jean-Michel, c'est que je pensais, on en avait parlé hier, je pensais que Lille pouvait les inquiéter. Parce que Lille, c'est une très belle équipe. Collectivement, il y a un coach qui est sûr de ses idées et ça se voit. Il y a une sérénité dans ce club de toute façon et des joueurs qui ont faim, des joueurs qui c'est des chiens et ça correspondait exactement au contexte d'hier parce que contre les clubs anglais surtout là-bas tu sais que tu vas te faire rentrer dans le chou, tu sais qu'ils vont venir te presser, tu sais que ça va être difficile
si tu joues sur la pointe des pieds
t'es mort, t'exploses et tout de suite j'étais rassuré. Alors ils étaient menés 2-0 limite contre le cours du jeu parce que à l'arrivée ils ont eu plein d'occasions et heureusement qu'ils reviennent à la fin.
C'est possible.
Bien sûr, sur ce qu'on a vu hier. En plus, attention, le contexte maintenant, ils vont le retourner parce que le stade à Lille, il est plein. Ouais, il va être plein. Ça va être très chaud. Les Anglais, alors, ils connaissent les ambiances chaudes, il n'y a pas de souci. Sauf que là, à mon avis, vu que les Anglais, ils nous prennent un petit peu de haut à chaque fois, ils ont dû s'en prendre une bonne. Sur la prestation des Lillois hier, ils se sont dit, waouh, en fait, c'est pas si facile ça. Et que là, ils vont se méfier d'autant plus. Mais les Lillois ont vraiment les ingrédients, les arguments pour
les inquiéter. On parlait de créativité dans le jeu qui est inexistante à Marseille. Je suis désolé, là des bons joueurs de ballon, il y en a.
Alors on parlait tout à l'heure des reports de match. Ils vont pas à Arsenal, je crois.
Aston Villa, oui. Le week-end prochain, oui. En première ligue.
Et comme ils sont en course.
En course pour la Ligue des Champions, oui.
Pour la Ligue des Champions, là, ils vont pas faire retourner. Donc,
ah, bah non, ouais.
Et c'est un élément à prendre en considération.
Tu as raison.
C'est
vrai. Bravo, Jean-Michel. Et puis terminons notre multiplex Ligue 1 à Montpellier. Dimanche, 15h, Montpellier se déplace.
À l'affiche, la deuxième affiche.
Montpellier est 13e. Non, mais pourquoi on a encore OK Julien Landry, parce que c'est le moment de le faire. On le fait rarement, mais c'est un match particulier pour les Montpellierens. Déjà, on l'aime beaucoup. Voilà, et surtout, on voulait le faire venir pour cette affiche.
Fait rire.
En plus, je rappelle le contexte du match aller. Le 8 octobre, c'était le match aller. Donc, jet de pétard sur Moridio, le gardien clermontois, dans le temps additionnel. Montpellier mène 4-2. Résultat, un point de retrait. Match rejoué à huis clos qui va se terminer sur un nul, un partout. On dit même au club que c'est le match qui a fait mal tourner la saison montpelliéraine, le match bascule. Julien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse motivation pour les Montpelliérains et surtout pour leurs supporters dimanche. Hein.
Ouais, c'est vrai que depuis des semaines, et Michel Derzakarian, je pense que chaque semaine, il est toujours revenu sur ce match en ne voulant pas nier le fait que Montpellier l'avait gagné. Je me rappelle qu'une fois, on lui avait posé la question sur le nombre peu reluisant de victoires de Montpellier à domicile, qui s'est imposé que contre Toulouse, et il n'arrêtait pas de répéter. Non, mais vous oubliez clairement, on a gagné deux fois cette saison, donc c'est un match qui compte pour Michel Derzakarian. Laurent Nicolin lui-même l'avait déclaré, il avait dit « Si on gagne le soir de Clermont, on est sixième au classement, mais un débile abruti nous fait basculer la saison, hein, j'entends pétard. » Et c'est vrai que depuis ce match-là, la saison de Montpellier a basculé en jouant le maintien avec plein d'incidents, les blessures de Nordin, les blessures de Tamari. Et c'est vrai que pour le symbole, Montpellier pourrait quasiment avoir assuré son maintien dimanche après-midi en cas de succès à Clermont. S'imposer à Clermont dans cette saison-là, évidemment, ça marquerait. Arnaud Nordin en a parlé cette semaine en disant qu'il savait qu'il y avait l'importance. Et la preuve de l'importance, c'est que dimanche après-midi, on attend quasiment près de 1000 Montpelliérains du côté de Clermont. Et il faut remonter, Jérôme, à mai 2012, au match de Montpellier du côté d'Auxerre pour voir un aussi gros parcage montpelliérain à l'extérieur.
Ah ouais, c'était le match du titre.
Ouais, le match du titre, exactement. Que les Montpellierains ont ciblé ce match-là en disant que voilà, il est important alors pour l'histoire du club, l'histoire de se maintenir, parce qu'on rappelle qu'au mois de novembre, Montpellier fêtera ses 50 ans et que Montpellier a évidemment envie d'être en Ligue 1. Mais que oui, c'est un match qui compte, même si Michel Derzakarian a dédramatisé ce matin en disant que c'était juste un match où il fallait prendre les points. Mais oui, clairement, ce match est ciblé par les joueurs, par les supporters pour aller clore la saison du côté de Clermont dimanche après-midi.
Alors que ce soit une péripétie, oui, mais est-ce que c'est pas un peu facile de se dire bah c'est ce qui a fait basculer notre saison,
ça, bien sûr que ça a fait basculer les matchs qui ont suivi c'est un broglio là de matchs remis, gagnés, points perdus.
Tu parlais justement, Jérôme, tout à l'heure, des points que tu pensais avoir gagnés quand à Montpellier ils ont attendu pendant un mois et demi en se disant ouais, de toute façon le match de Clermont il est gagné sur
le
papier,
on va le gagner.
Il est forcément dans notre poche. Et finalement, ils avaient fait match nul un partout à la fin du mois de novembre.
Et puis à l'arrivée, au point de vue comptable où ça les a mis en difficulté, et là je te rejoins Julien, c'est que ils prennent un point seulement, donc match nul, et ils en ont perdu un, donc
en fait c'est un match à zéro.
Et que bah forcément
non, c'est pas un match à zéro, c'est moins 3 points.
Je me fais comprendre, c'est moins 3 points, t'as raison. Mais à l'arrivée, ça leur a fait 0.
J'ai vu qu'avec les maths, t'avais un petit problème.
Stephen Times le samedi soir. Non, je disais que avant de donner la parole à Jean-Michel, bien sûr, que Montpellier sur les semaines qui ont suivi ce match-là, c'est normal que il y ait un problème dans les pieds et dans les têtes. Mais derrière, la saison, elle est catastrophique. Moi, il y a eu des erreurs dans le recrutement, ça c'est sûr, c'est indéniable. Il y a eu la gestion de Michel Derzakarian qui a pas été bonne avec des joueurs d'expérience, c'est la réalité. Il a eu du mal à garder une certaine dynamique qu'il avait retrouvée quand il est revenu. Il faut pas lui retirer ça aussi. Et que là, franchement, je pensais, et on en avait parlé avec Julien il y a quelques semaines, je pensais que c'était plus l'homme de la situation. Et il a réussi à reprendre le dessus sur ce groupe. Et tant mieux, parce que la Ligue 1 a besoin d'avoir Montpellier Montpellier aussi. Et comme tu l'as dit, l'année prochaine, c'est les 50 ans d'un club comme Montpellier. Un bon clin d'œil à Loulou Nicolin, bien sûr, qui nous manque. Ah, je suis désolé, oui, pour le bien du football français, il faut que Montpellier arrive à assurer son maintien dès ce week-end.
Jean-Mi, en quelques mots, est-ce qu'on ne doit pas se cacher derrière ce match ? Péripétie importante, mais ça n'explique pas tout.
Oui, péripétie importante et décision, comment dirais-je, indigne, parce que, comme le dit Loulou, hein, comme le dit Laurent, pardon, Nicolin, comment sanctionner un club pour un abruti qui jette un pétard, voilà, et mettre le club, tout le club en difficulté, d'autant que, bon, je ne trahirai pas la parole d'un haut dirigeant de Montpellier que j'ai eu mercredi au téléphone, mais qui considère que le maintien de Montpellier en Ligue 1 est capital pour la survie de ce club. Donc ce match-là revêt une importance capitale dans un contexte étrange, parce que clairement va se jeter à corps perdu, mais on se dit, tiens, finalement, s'il y avait un abruti qui était derrière le but de Clermont et qui, voyant Clermont mener 1-0 à la 80e minute, jeter un pétard. Par exemple. Voilà, qu'est-ce qui se passerait ? Donc, je trouve que on a mis en difficulté une équipe, un club, pour un geste d'un irresponsable.
Ouais. Merci, ça, en tout cas.
C'est dans la droite lignée des décisions.
Bon, après, n'empêche que ton ami Michel Derzakarian n'a pas été inspiré tout au long de l'année. Voilà. Hein. Merci. Ça, même si tu as du mal à lire.
Merci, Péo, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Ils sont une équipe.
Reviens quand tu veux, Péo.
Salut, Julien.
Tu peux t'accrocher. Pour les imitations de Jérôme, je reviendrai tous les vendredis.
Ah, bah, bien sûr. T'as vu ça.
C'est qui meilleur?
Ah, Unai Emery.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.